Philippe Comte, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs.
Alors Philippe, avant de parler du livre en lui-même, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs justement ?
Oui, alors rapidement, j'étais ingénieur dans un grand groupe dans l'environnement, jeune retraité depuis cet été en fait, donc je bénéficie d'un peu plus de temps qu'avant. Voilà, je suis marié, père de 4 enfants. Ça fait une grosse dizaine d'années plutôt que j'essaye d'utiliser les principes de réflexion de la doctrine sociale de l'Église pour essayer de décrypter un peu les problématiques contemporaines. Alors je suis passé un petit peu par mon premier bouquin, c'était sur les questions environnementales. Ensuite, j'ai abordé de manière un peu plus précise la doctrine de la guerre juste de Saint-Augustin appliquée à la guerre d'Afghanistan. Et là, bon, j'essaie de traiter peut-être quelque chose de plus global, ce qu'on appelle pompeusement de la méta-histoire, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu les mécanismes généraux qui nous ont menés à la crise multiforme qui est celle d'aujourd'hui.
Ce nouveau livre, Philippe, donc La vraie révolution sera spirituelle, comprendre pour agir, c'est le sous-titre.
Oui, ce titre qui est important lui-même, parce qu'en fait, c'est vraiment un peu le cœur de la démarche, c'est-à-dire pour pouvoir trouver des solutions, il est évident qu'il faut remonter aux prémices, remonter aux sources. À quel moment, les mauvais choix ont pu être faits, ou si les choses auraient pu être différentes, comment elles pourraient évoluer de manière positive dans le futur, parce que revenir en arrière sera de toute façon impossible.
Oui, alors vous le dites d'ailleurs dans votre livre, d'abord vous faites un constat, une étude, vous remontez dans l'histoire, l'importance de la connaissance historique des phénomènes et de la pensée, ça apparaît dans votre livre, et ce constat que nous allons dans le mur en fait, hein, c'est, on peut le dire comme ça.
Oui, en fait, dire que la crise est tellement multiforme qu'on voit bien que les solutions, chaque solution qu'on essaye d'apporter finalement crée de nouveaux problèmes. C'est assez visible dans les questions environnementales que j'ai traitées, je dis dans mon premier livre, mais que je suis toujours aujourd'hui. On voit qu'en fait chaque solution nouvelle qu'on essaye d'amener crée des nouvelles difficultés, crée de nouveaux déséquilibres. Et en fait, je pense que ce que j'essaye de montrer, ce qui est capital de comprendre, c'est que le système actuel, sa force, c'est sa logique interne. C'est-à-dire qu'il a ses propres mécanismes logiques. Alors souvent, on va chercher la faille dans le raisonnement. Enfin, la force du système actuel, c'est qu'il a une logique interne extrêmement puissante. Ce sont ses prémices qui sont faux. Et donc, c'est ces prémices-là qu'il faut aller rechercher. C'est la raison de la petite enquête historique que j'ai faite. Ça implique de remonter effectivement assez loin et de définir aussi un autre point qui est capital, qui est peu abordé en règle générale. C'est le fait que, si l'on est catholique du moins, on considère que l'événement central de l'histoire, c'est l'incarnation du Christ. Et que, par conséquent, le spirituel commande au matériel, et qu'il faut bien remonter aux causes spirituelles pour trouver les conséquences matérielles qui nous amènent visiblement au mur, ou du moins à une période de crise assez profonde. Donc voilà, c'était un peu la démarche de ce livre, c'était remonter aux causes spirituelles, essayer de trouver toujours en amont des phénomènes sociaux et des phénomènes plus globaux, politiques, économiques, etc. Quelles sont les sources spirituelles de ces déséquilibres.
Alors justement, Philippe Comte, avant peut-être de revenir sur un ou deux exemples sur ces sources-là, vous dites le conservatisme, notamment, vous l'avez dit à l'instant, hein, c'est une tentation qui peut être compréhensible, mais qui n'est pas là du tout la solution. C'est important à dire parce qu'on le voit dans certains courants. On revenir en arrière, c'était mieux avant. Tout ça, ça ne fonctionne pas.
Non, je donne souvent une image qui est un peu triviale, mais qui permet de bien comprendre la chose. Quand on a un grain de blé, on le passe au moulin, on a de la farine. On ne peut plus jamais refaire le grain de blé. Peut-être on peut faire du pain avec. Donc c'est vraiment cette démarche-là qu'il faut avoir présente à l'esprit. Il y a des choses qui ont été irrémédiablement détruites. On peut le regretter, personnellement, je crois dans le livre, je parle à un moment donné de la question de la chevalerie au Moyen-Âge, qui était pour moi une belle période. Mais de toute façon, c'est terminé. On ne pourra plus recréer ça. Est-ce que c'est même souhaitable ? Certainement non. Je crois que la vision catholique de l'histoire, c'est que ça se déroule. Le terme est connu, mais les chemins par lesquels on va y arriver, eux, par contre, restent complètement sous l'emprise de la liberté humaine. Donc ça peut être des chemins beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tortueux, ou des chemins plus directs, moins difficiles. Je crois que c'est vraiment ça le domaine de notre liberté. Au bout, on sait que Dieu veut sauver les hommes. Donc le mal a déjà été vaincu par le Christ. Mais nous, on a du boulot à faire encore. Suivant la formule célèbre de Jeanne d'Arc, les hommes d'âme combattront, Dieu donnera la victoire.
Oui, alors on est, donc le constat effectivement c'est celui-là, on est dans une grave crise globale, institutionnelle, économique, spirituelle aussi, bien sûr, c'est l'objet aussi de votre livre. Et alors cette crise, il faut y passer, il faut la vivre, il faut aussi se mettre en état de combat, vous avez parlé de Jeanne d'Arc à l'instant.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la crise, étymologiquement le terme crise c'est ça, c'est-à-dire c'est une étape à franchir, hein, c'est une épreuve à dépasser. Je crois que là, encore une fois, c'est illusoire de vouloir revenir en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des polémistes connus, je ne donnerai pas le nom, qui militent pour un retour aux années 60, etc. Mais bon, ce sont les années 60 qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une illusion d'imaginer pouvoir revenir en arrière pour aller prendre un embranchement qui aurait été évité à une époque. Je crois qu'aujourd'hui, le passé est écrit, l'avenir reste à écrire. Donc ça dépend vraiment de notre liberté, de la liberté humaine, de définir les voies par lesquelles on va sortir de cette situation. Ça peut être des voies très difficiles, avec beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, beaucoup de morts malheureusement, ou des voies beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus constructives. En tous les cas, c'est à dépasser et pas à revenir en arrière.
Et oui. Et alors justement, vous parliez tout à l'heure, Philippe Comte, alors, des prémices, je ne sais pas comment dire ça, parce que, en fait, est-ce qu'on peut... parce que vous parlez quand même de révolution, c'est dans le titre même du livre.
Oui.
Donc, en fait, il faudrait une révolution. Mais qu'est-ce que vous entendez par révolution ?
Alors, justement, le terme révolution, bon, il faut le prendre au premier sens du terme, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est tourné. Alors, je pense que la révolution française, elle est paradigmatique de la modernité, quelque part. Et la modernité, c'est une révolution, c'est-à-dire que ça nous a fait marcher sur la tête. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est de revenir sur nos pieds, en fait, et marcher pour avancer. Donc effectivement, il faut de nouveau tourner. Et donc, il faut de nouveau repartir des principes catholiques pour espérer sortir de la crise. Un exemple qui, à mon avis, est très important, c'est je fais un petit peu de teasing, comme on dit aujourd'hui. Le livre sur lequel je suis en train de travailler va vraiment s'axer sur cette question-là, qui est la question des institutions. J'en parle dans ce présent livre. C'est la lettre assez célèbre du pape Gélase à l'empereur Athanase, où Gélase explique comment le monde doit être gouverné. Il doit être gouverné avec la potestas de l'empereur et l'auctoritas du pape, en reprenant des termes qui sont des termes du droit romain classique. Et cette lettre a été, à mon avis, mal comprise au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a défini non pas deux modalités d'intervention différentes pour un seul gouvernement, mais deux champs séparés d'intervention, c'est-à-dire le roi, le temporel, le pape, le spirituel. Et quelque part, quand on en est là, on finit par aboutir logiquement à la laïcité. Parce qu'effectivement, si l'intervention du pape n'est légitime que dans le domaine dans le domaine du spirituel, le spirituel, a priori, ça intéresse la personne plus directement que la société. Donc finalement, on exclut petit à petit le religieux du champ social. Et on aboutit à la laïcité de combat d'aujourd'hui, on aboutit au sécularisme d'aujourd'hui, on aboutit à une nouvelle idéologie, même une nouvelle religion. Parce qu'il faut bien se rappeler que les laïcistes du XIXe siècle parlaient ouvertement de théologie laïque, c'est-à-dire vraiment d'une religion de substitution pour asseoir, pensait-il, la République.
Et on peut même parler peut-être, alors je ne sais pas si ce que vous en pensez Philippe Comte, mais d'une nouvelle religion, vous le disiez à l'instant, ce qu'on appelle un peu aussi la religion sans nom. Il y a quand même des forces à l'œuvre dans ce monde, hein, pour la puissance et la domination, qui sont tout sauf du Christ. Et là, on en voit aujourd'hui le visage, on est comme une forme de prémisse apocalyptique, hein, c'est-à-dire que les choses se dévoilent au fur et à mesure. Notamment ces forces contraires au Christ.
C'est clair, quand on voit les évolutions extrêmement rapides, hein, des dernières années, avec des mises en place d'une société complètement plus que laïque, sécularisée intégralement, où la notion même de Dieu devient presque un gros mot. Enfin, on se rend compte vraiment que les forces du mal, puisqu'on parle de spirituel, elles existent, et ces forces du mal avancent. Si les hommes, par leur absence de dimension spirituelle, laisse le champ libre à ses forces, évidemment, elles viennent occuper le terrain. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un autre point que j'aborde également, et dont on n'a pas parlé, qui est important également, c'est la notion même, comment conçoit-on l'homme ? Quelle est l'anthropologie ? Quelle est la vision de l'homme ? Et dans la vision traditionnelle des pères de l'Église, l'homme a trois dimensions, c'est ce que dit également saint Paul. C'est une dimension, c'est corps, âme et esprit. Et reprenant d'ailleurs une formule d'origine extrêmement classique. Et cette vision de l'homme avec trois dimensions est aujourd'hui complètement oubliée, y compris même chez beaucoup de catholiques. C'est-à-dire qu'on considère des fois l'homme a une âme, quoi qu'on ne sache pas trop de quoi il s'agit. La dimension spirituelle est complètement oubliée. Or, c'est d'abord sur cette dimension-là qu'il faut agir. C'est d'abord la prière et avant tout la prière collective qui peut permettre de se remettre en route vers la bonne direction par les chemins tortueux que j'ai indiqués, puisqu'aujourd'hui on est vraiment très très loin. On a construit un système très loin, qui est très loin du plan divin. Et une des meilleures évidences que ce système est très loin du plan divin, c'est l'état de la création. C'est-à-dire la crise écologique dont on nous rebat les oreilles, à juste titre, parce que la crise est sérieuse. Mais en tout cas, la cause de cette crise, ce n'est pas le pétrole, les grandes entreprises, le charbon, etc. Non, la cause principale de cette crise, c'est notre éloignement l'éloignement de nos sociétés, de notre organisation sociale, de nos choix sociaux, notre éloignement du plan divin. Et ça se transmet directement dans la création, puisque la création, elle, c'est la création de Dieu. Donc ce divorce, c'est un terme tout à fait adapté, ce divorce de l'humanité avec le plan divin a une conséquence mortifère pour toute la création.
Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans la doctrine de l'Église, vous avez parlé notamment en début d'émission de la doctrine sociale de l'Église, toutes les solutions sont là dans l'Église. Après, il faut les mettre en œuvre.
Tout à fait. Et c'est vraiment le sens de mon travail depuis depuis 2008, où j'ai publié mon premier bouquin, c'est de dire vraiment cette doctrine sociale de l'Église, c'est un trésor. C'est un trésor qui n'est pas suffisamment pris en main par les catholiques, qui n'est pas suffisamment connu déjà, qui n'est pas suffisamment expliqué, qui n'est pas suffisamment travaillé, parce que la doctrine sociale, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné une fois pour toutes. Le pape Jean-Paul II avait une formule, la doctrine sociale de l'Église, c'est des principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action. Et c'est que des directives d'action, c'est à nous après à creuser, à réfléchir, à mettre en place des solutions pour que cette doctrine puisse nous donner des solutions. Et c'est évident que les seules solutions sont là, et nulle part ailleurs.
Notamment si on parle de tradition, on l'a dit, le conservatisme ne mène nulle part, on ne va pas revenir en arrière, mais quand même, vous la posez d'ailleurs la question dans votre livre, Philippe Comte, est-ce qu'on peut reconstruire une tradition? Comment c'est possible aujourd'hui quand on voit la liquidation totale de tout ce qu'il y a autour de nous, quoi?
Alors, un des points importants que j'aborde également, j'ai un chapitre qui est spécialement dédié à ça, qui est au problème éducatif. C'est-à-dire que le préalable, c'est l'éducation. Alors l'éducation, bien sûr, on pense tout de suite aux enfants. Malheureusement, en France, le système d'éducation est à peu près totalitaire. C'est-à-dire que l'éducation nationale fixe les programmes, les normes, les principes éducatifs, les pédagogies, etc. Tout est à peu près fixé de manière centralisée. Bon, mais l'éducation, ça aussi, ça implique les adultes. On continue à se former tout le temps. Moi, je continue à travailler, je continue à essayer d'apprendre des choses, à lire des nouvelles réflexions ou des réflexions très anciennes qui sont des fois plus éclairantes d'ailleurs que les dernières parutions. Mais il faut continuer à se former toute sa vie. Et donc, ce travail intellectuel, de réflexion, il doit être fait à chacun à son niveau. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de devenir un spécialiste, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, tout le monde a le devoir de s'informer, de se former. Et là, entre autres, sur la doctrine sociale. Les catholiques doivent découvrir le trésor de la doctrine sociale pour pouvoir le mettre en œuvre de manière efficiente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe souvent, c'est que des fois, des catholiques de très bonne foi, des gens très intelligents, etc. J'ai en tête quelqu'un dont je n'aurai pas le nom, mais qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, finit par mettre en œuvre des solutions qui ont été cogitées dans les universités américaines, qui sont les mêmes universités qui ont produit l'idéologie du gender, l'idéologie queer, etc., etc. Non, à un moment donné, il faut s'interroger sur ses sources. Donc, pour pouvoir développer des solutions vraiment opératives, à mon avis, c'est important de revenir travailler, c'est pour ça que je parle de tradition, sur les textes fondamentaux de l'Église, les pères de l'Église, les encycliques, les conciles. C'est la base. À partir de là, effectivement, on peut reconstruire, entre guillemets, une tradition. Elle n'est pas entièrement à reconstruire, elle est plutôt à restaurer. Mais en tout cas, c'est à partir de ces bases-là, qui sont des bases sûres, que l'on peut reconstruire quelque chose. C'est l'image célèbre de la maison construite sur le roc. Le roc, c'est l'enseignement de l'Église. Il n'est pas possible de construire quelque chose de solide si l'on s'écarte de cet enseignement.
Et alors, Philippe Comte, dans votre livre, vous mentionnez bien sûr aussi les trois, bon, le catholicisme, le christianisme, les deux autres monothéismes, hein, que sont l'islam et le judaïsme. Et vous les combinez d'ailleurs, hein, dans une histoire avec des moments où on a eu des rapprochements, puis des moments des grosses divergences. Qu'en est-il aujourd'hui et comment ça peut s'articuler ?
Oui, alors j'ai même osé une image qui est peut-être un peu outrée, mais c'est un peu volontaire. Je parlais de monothéisme méditerranéen et je parlais de méga-hérésie pour le judaïsme actuel, qui est très loin du judaïsme de l'époque du Christ, et de l'islam. Bon, je voudrais pas partir sur des discussions historiques sur les sources de ces divergences, bien qu'elles soient intéressantes, et même très intéressantes. Mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Je pense qu'aujourd'hui, le judaïsme actuel, que j'appelle le talmudisme, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le Talmud qui est très, très important pour les juifs pratiquants, le Talmud et la Kabbale. Je pense que le talmudisme contemporain s'est un peu enfermé dans une position un peu obsidionale d'assiégement, de sentir agressé, encerclé, etc. Avec des bonnes raisons historiques, hein, j'en dis qu'on vient pas, mais en tout cas, il serait temps pour lui de s'ouvrir plus et de renouer peut-être avec des choses encore plus anciennes. Pour l'islam, je pense qu'aujourd'hui, il y a des courants très différents. Et malheureusement, en France, peu de gens, finalement, se prennent le temps de faire les distinguos qui s'imposent. En particulier, sur une grande différence, à mon avis, qui est la différence entre sunnite et chiite. L'islam sunnite a ses propres logiques, ses propres évolutions. Il y a un rapport au pouvoir qui est finalement très proche du christianisme d'origine, c'est-à-dire du christianisme byzantin. On est dans une configuration de ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire où c'est l'empereur qui fixe les repères religieux. Un peu dans cette configuration-là, où c'est effectivement le politique, le cas typique c'est l'Arabie Saoudite, effectivement, ça s'appelle l'Arabie Saoudite parce que c'est Ibn Saoud qui crée le pays, alors certes avec les Wahhabites, avec Ibn al-Wahhab, mais c'est quand même Saoudite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le roi qui fixe. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, le prince héritier, on va dire, puisqu'il n'est pas encore roi, en Arabie Saoudite, c'est lui qui est en train d'impulser des réformes, du moins dit-il. En tout cas, encore une fois, c'est le politique qui décide. Donc on voit bien que dans le sunnisme, on a divergé. Et je donne l'exemple, par contre, inverse de la République islamique d'Iran, qui, paradoxalement, aujourd'hui, je le dis, c'est paradoxal, mais c'est vrai, est le pays au monde qui a mis en place les institutions qui sont le plus proches de celles que définit Gelaz. C'est-à-dire où on a une distinction entre la potestas, qui est le gouvernement, le président de la République, et l'autoritas, qui est le guide de la révolution, qui est lui-même un religieux. Donc, alors je ne veux pas dire par là que c'est idéal, loin s'en faut bien sûr, mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est possible dans un monde moderne, d'organiser les institutions différemment que ce qu'on nous a appris de Montesquieu, la séparation des trois pouvoirs, etc., tout ça, qui sont déjà en soi problématiques. Si l'on divise le pouvoir, en fait, le pouvoir politique, parce que c'est ça dont il s'agit avec Montesquieu, c'est de séparer, c'est de fractionner le pouvoir politique, le pouvoir du roi, en trois éléments. En fait, c'était pour faire quoi ? C'était pour laisser le champ libre au pouvoir économique. En fait, c'est pas pour rien que cette division du pouvoir est arrivée au moment de l'instauration, ou du moins de la promotion du libéralisme économique. Il y a effectivement une connexion, cette infirmité du pouvoir politique avait comme objet de laisser la porte ouverte au pouvoir économique. Il y a un exemple qui est très célèbre, qui est la question, qui est les réformes à l'époque de Louis XVI, quand Louis XVI essaye de réformer le pays, etc., et où les premiers économistes viennent lui dire qu'il faut libéraliser les farines, libéraliser le commerce du grain. On supprime la police du grain, qui était un des outils du roi, pour maintenir le prix du grain à un niveau suffisant pour que tout le monde puisse manger. On libéralise le commerce du grain, les grains de France et de Bourgogne partent aux Pays-Bas, qui ont plus de moyens l'année où il y avait une famine, et les paysans de Bourgogne meurent en voyant des péniches chargées de grains qui partent vers le nord. Bon, c'est ce qu'on appelle la guerre des farines, il y a eu des révoltes, etc. Mais là, on voit bien de quelle manière cette atteinte au pouvoir royal, qui était la suppression de la police des grains, au profit du libéralisme, provoque finalement un abaissement du pouvoir du peuple, un abaissement de son pouvoir d'achat, de sa qualité de vie, etc. Donc vraiment, cet aspect-là, à mon avis, est très important. C'est pour ça que la question institutionnelle et le fait de sortir du modèle institutionnel qui nous a été imposé par les laïcistes et les sécularistes et les hommes des Lumières, soi-disant humanistes, mais qui aimaient plutôt les humanités que les hommes, en fait, hein, quand on lit leurs textes sur le peuple, je donne quelques exemples dans le livre, on voit quel dans le mépris profond dans lequel il tenait le peuple, hein, tous les Voltaire, les Montesquieu, les Diderot, etc. Donc il y a vraiment un mépris du peuple, dont un des aspects c'est celui-là, c'est-à-dire de brider le pouvoir politique qui avait cette possibilité dans l'Ancien Régime de contraindre le pouvoir économique dans l'objectif du bien commun. Donc il y a effectivement une organisation d'institution à faire. La monarchie n'est pas une monarchie absolue, mais en tout cas sur un modèle différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui, qui clairement est adapté au monde d'aujourd'hui.
Alors c'est un sacré défi parce que c'est tout ça à mettre en œuvre dans un monde qui... Alors il y a peut-être un modèle, je sors peut-être un peu du cadre, mais un modèle économique super néolibéral, tout ce qu'on veut, anglo-saxon, qui est un peu en bout de course. Et vous avez cité tout à l'heure l'exemple de pays où c'est davantage posé sur ces principes-là, comme l'Iran par exemple, mais d'autres. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si ça se casse la figure de ce côté-là, de ce néo-capitalisme complètement fou furieux aujourd'hui, hein, qui n'a plus de limite sur le plan oligarchie, concentration de pouvoir, etc., qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Est-ce qu'on attend que les choses se tombent d'elles-mêmes?
Il y a des choses qui sont à notre portée. Je pense qu'encore une fois, les pistes, j'ai tout un chapitre à la fin, plusieurs chapitres même, où j'aborde que faire, quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Ce qui, à mon avis, est quelque chose de très important, parce que très souvent, on fait des analyses. Globalement, aujourd'hui, tout le monde d'accord sur les analyses. La situation n'est pas bonne, on ne va pas vers du mieux. Bon, ça, tout le monde est à peu près d'accord, à part quelques transhumanistes fous qui considèrent qu'on va pouvoir migrer le cerveau humain sur des ordinateurs, etc.
Qui pensent qu'on va passer loin encore.
Ouais, voilà. sinon, la plupart des gens sensés conviennent du fait qu'on est dans une crise vraiment compliquée, des solutions vraiment compliquées. Je pense qu'il y a des choses qui sont à notre portée immédiatement. L'exemple que je donne, c'est d'une part, encore une fois, la question de la prière et de la prière collective en vue du salut. C'est-à-dire que je pense que, d'ailleurs on le voit que historiquement, un des moments de rupture, c'était la fin des confréries au temps moderne. C'est-à-dire au Moyen-Âge, c'était encore très puissant, il y avait des confréries d'archers, il y avait des confréries professionnelles, il y avait des confréries de luminaires qui étaient chargées d'embellir les églises, il y avait des confréries de toutes sortes. Tout ça disparaît, c'est plus ou moins remplacé par la franc-maçonnerie à l'époque, avec des divergences, des fois des gens qui ont été pénitents, comme quelqu'un de célèbre, hein, de Maistre, typiquement, qui est un conservateur, bien connu, souvent cité par les conservateurs d'aujourd'hui. Joseph de Maistre était pénitent noir à Chambéry, et il est devenu franc-maçon sur le tard. Donc on voit ces glissements-là. Et je pense que, alors encore une fois, reconstruire ce qui a été fait, c'est pas possible, mais en tout cas, ce qu'il faut reconstruire, c'est ces lieux de prière collective, orienté vers le bien commun, orienté vers la sauvegarde de l'État, vers la sauvegarde du pays, etc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je l'ai dit, c'est l'éducation. C'est arriver à mettre en place des structures éducatives. C'est encore malgré tout possible en France aujourd'hui. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas. Mais c'est possible de créer des structures éducatives alternatives, où l'objectif, ce n'est pas l'acquisition de savoir, où l'objectif, c'est la formation humaine et spirituelle de la personne. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des préalables. Parce qu'on peut... il est évident qu'on pourrait réformer les institutions, mais là aussi, la réforme peut être progressive. On n'est pas obligé de, le grand soir, prendre d'assaut l'Élysée et changer les choses. Je pense que ça serait tout à fait impossible et surtout, ce ne serait pas du tout intéressant. Ce qu'il faut, c'est créer des conditions préalables pour que les institutions changent. Encore une fois, les institutions d'un pays, ça doivent être orientées sur deux principes. La potestas du prince, qu'il soit élu ou héréditaire, a peu d'importance en fait. C'est le prince, c'est celui qui commande, aujourd'hui c'est M. Macron, en ce qui nous concerne, et l'auctoritas, qui doit être séparé. Et Cicéron donnait les trois éléments du bon gouvernement, c'est potestas du prince, auctoritas, à Rome c'était le Sénat, et libertas pour le peuple. Le peuple doit être libre, il faut rendre la liberté aux gens. Aujourd'hui, on vit dans un univers de contraintes de plus en plus massives. Redonner la liberté. Voilà, c'est un des points essentiels qu'il faut réclamer. Il faut réclamer la liberté, en particulier la liberté éducative.
Oui, libertés qui sont bien rognées aujourd'hui, partout. Mais en tout cas, Philippe Comte, merci. Hein. Je rappelle donc le titre du livre, donc « La vraie révolution sera spirituelle, comprendre pour agir ». Alors, c'est aux éditions L'Harmattan. Hein.
C'est ça, tout à fait. D'accord. Ce ne sont pas des éditions catholiques, justement, qui sont des éditions généralistes. La collection est intéressante aussi parce que ça s'appelle « Questions contemporaines, série, que faire ?»
Oui, c'est dans la série « Que faire ?», questions contemporaines, tout à fait, oui.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe.
Merci Comte, à vous.
Et puis, bon travail pour le livre qui est en
gestation.
En gestation, voilà. Et on vous invitera pour le prochain.
Merci beaucoup. Merci d'avance.
Au revoir.